Chapitre 30. Nicolas donna à Obinze un costume pour le mariage. « C'est un bon costume italien, » dit-il. « Il est étroit pour moi, alors il devrait aller. » Le pantalon était trop large et fronça à la taille quand Obinze serra la ceinture. Mais la veste, également trop grande, masqua les plis disgracieux. Aucune importance. Il était tellement déterminé à ce que cette journée aboutisse, désireux de pouvoir enfin commencer à vivre, qu'il aurait emmailloté la partie inférieure de son corps dans une couche pour bébé s'il l'avait fallu. Iloba et lui retrouvèrent Cléotilde, près du Civic Center. Elle se tenait sous un arbre avec ses amis, ses cheveux retenus en arrière par un bandeau blanc, les yeux lourdement soulignés de noir. Elle paraissait plus âgée, plus sexy. Elle portait une robe ivoire moulante. C'est lui qui l'avait payée. « Je n'ai pas de robe habillée », s'était-elle excusée au téléphone. Elle le serra dans ses bras. Elle semblait nerveuse et il chercha à détourner sa propre inquiétude en s'imaginant avec elle après la cérémonie, en songeant que dans moins d'une heure, il serait libre d'arpenter les rues anglaises d'un pas plus assuré, libre de l'embrasser. « Avez-vous les alliances ?» demanda Iloba. « Oui, » répondit Cléotilde. Obinze et elle les avaient achetées la semaine précédente. Deux simples alliances bon marché, dans une boutique d'une petite rue, et elle avait paru si joyeuse en essayant différents anneaux qu'il s'était demandé si elle ne souhaitait pas qu'il s'agisse d'un véritable mariage. « Encore un quart d'heure, » dit Iloba. Il s'était attribué le rôle d'organisateur de la journée. Il prenait des photos, son appareil numérique à bout de bras devant lui, ordonnant « Rapprochez-vous !» « Ok, encore une !» Sa bonne humeur résolue agaçait Obinze. Dans le train qui les avait emmenés la veille à Newcastle, Obinze était resté à regarder par la fenêtre, incapable même de lire. Iloba n'avait cessé de parler jusqu'à ce que sa voix se transforme en un murmure lointain, peut-être parce qu'il essayait d'empêcher Obinze de s'angoisser outre mesure. À présent, il s'adressait avec une gentillesse naturelle aux amis de Cléotilde. Leur parlait du nouvel entraîneur de Chelsea, The Big Brother, comme s'ils se trouvaient tous là pour une occasion banale et normale. « Il est temps d'y aller !» dit Iloba. Ils se dirigèrent vers le Civic Center. Un soleil radieux illuminait l'après-midi. Obinze ouvrit la porte et s'effaça pour laisser entrer les autres dans le hall anonyme où ils s'arrêtèrent pour s'orienter, s'assurer qu'ils prenaient la direction du bureau d'enregistrement. Deux policiers se tenaient derrière la porte, les observant d'un œil impassible. Obinze contint sa panique. Il n'y avait rien à craindre. Rien du tout, se dit-il. La présence de policiers au Civic Center n'avait certainement rien d'inhabituel. Mais il sentit dans la soudaine étroitesse du couloir, la soudaine lourdeur de l'atmosphère, que quelque chose clochait. Avant de remarquer un autre homme qui s'avançait vers lui, les manches de sa chemise retroussées, les joues si rouges, qu'il avait l'air horriblement maquillé. « Êtes-vous Obinze Maduwesi ?» demanda l'homme aux joues rouges. Il tenait une liasse de documents à la main parmi lesquels Obinze distingua la photocopie d'une page de son passeport. « Oui, » dit-il d'un ton calme, et avec ce mot, ce simple « oui », il avouait aux fonctionnaires de l'immigration, à Iloba et Cléotilde, et à lui-même, que tout était fini. « Votre visa est expiré et vous n'êtes pas autorisé à rester sur le sol britannique. » dit l'homme aux joues rouges. Un policier lui passa les menottes. Il avait l'impression de regarder la scène de loin. Il se voyait en train de marcher jusqu'à la voiture de police dans la rue, de s'enfoncer dans le siège trop mou à l'arrière. Il avait tant de fois redouté cette scène par le passé. Il y avait eu tant de moments qui s'étaient noyés dans un brouillard de panique qu'à présent toute la scène ressemblait au morne écho d'un événement ancien. Cléotilde s'était jetée sur le sol et mise à pleurer. Elle n'était peut-être jamais allée dans le pays de son père, mais il fut convaincu à ce moment de son appartenance à l'Afrique. Comment sinon aurait-elle pu se jeter ainsi par terre, dans cette parfaite démonstration théâtrale? Il se demanda si elle versait ses larmes pour lui, ou pour elle-même, ou pour ce qui aurait pu exister entre eux. Elle n'avait aucune crainte à avoir, cependant, car elle était citoyenne européenne. Le policier lui jeta à peine un coup d'œil. C'est lui qui sentit peser les menottes à ses poignets pendant le trajet, Lui qui, en silence, tendit sa montre, sa ceinture et son portefeuille et regarda le policier s'emparer de son téléphone et l'éteindre. Le pantalon trop large de Nicolas glissait sur ses hanches. « Vos chaussures aussi. Ôtez vos chaussures », dit le policier. Il retira ses chaussures. On le conduisit dans une cellule. Elle était petite, avec des murs marrons, et les barreaux métalliques, si épais que sa main ne pouvait en faire le tour, évoquèrent le souvenir lointain de la cage des chimpanzés du zoo sinistre oublié de Ntsuka. Au milieu du haut plafond brillait une unique ampoule. Il régnait dans cette minuscule cellule une impression d'immensité, vide et sonore. Saviez-vous que votre visa était expiré?
Oui.
Étiez-vous sur le point de contracter un mariage blanc?
Non.
Cléotilde et moi sortons ensemble depuis un certain temps. Je peux vous trouver un avocat, mais il est clair que vous serez expulsé, dit le fonctionnaire de l'immigration d'un ton calme. Quand l'avocat se présenta, le visage bouffi, de grands cernes sous les yeux, Obinze se rappela tous les films où l'avocat commis d'office est nerveux, épuisé. Celui-ci arriva avec une serviette qu'il n'ouvrit pas et s'assit en face d'Obinze sans rien dans les mains, ni dossier, ni papier, ni stylo. Son attitude était aimable et sympathique. Le gouvernement a de solides arguments et nous pouvons faire appel. Mais pour être franc, cela ne ferait que retarder la décision et vous serez en fin de compte expulsé de Grande-Bretagne, dit-il avec l'air d'un homme qui a prononcé les mêmes mots, sur le même ton, plus souvent qu'il ne souhaitait ou ne pouvait se souvenir.
« Je suis disposé à retourner au Nigeria », dit Obinze. Toute trace de dignité l'abandonnait, comme un châle glissant sur les épaules qu'il essayait désespérément de retenir.
L'avocat parut étonné.
« D'accord, dans ce cas... »
Et il se leva un peu trop hâtivement, comme s'il était reconnaissant qu'on lui ait facilité le travail. Obinze le regarda partir. Il allait signer une déclaration selon laquelle son client acceptait d'être expulsé. Expulsé. Ce mot faisait de lui un être inanimé, une chose privée de respiration et d'esprit. Une chose. Il détestait le poids glacé des menottes, leurs marques sur ses poignets, l'éclat métallique des anneaux qui le privaient de mouvement. Il marchait, menotté, conduit à travers le hall de l'aéroport de Manchester, dans le froid et le vacarme de l'aérogare, parmi des hommes, des femmes et des enfants, des voyageurs, des agents de service, des vigiles qui le regardaient, se demandant quelle mauvaise action il avait commise. Il gardait le regard fixé sur la grande femme blanche qui hâtait le pas devant lui, ses cheveux flottant derrière elle, un sac à dos sur les épaules. Elle ne pouvait pas comprendre son histoire, la raison pour laquelle il traversait maintenant l'aéroport avec du métal fixé autour de ses poignets. Parce que les gens comme elle ne voyageaient pas avec l'angoisse d'obtenir un visa. Elle pouvait s'inquiéter pour des raisons d'argent, pour trouver un endroit où loger, être en sécurité, peut-être même pour l'obtention d'un visa, mais jamais avec une anxiété qui lui tordait la colonne vertébrale. On le conduisit dans une pièce avec des lits superposés, tristement poussés contre les murs. Trois hommes l'occupaient déjà. L'un, de Djibouti, parlait peu. Il était étendu et regardait le plafond comme s'il retraçait son itinéraire jusqu'à ce centre de détention à Manchester. Les deux autres étaient nigérians. Le plus jeune, assis sur sa couchette, faisait interminablement craquer ses doigts. Le plus vieux faisait les 100 pas dans la petite pièce, sans arrêter de parler. « Frère, ils t'ont eu comment ?» demanda-t-il à Obinze, avec une familiarité immédiate qui lui déplut. Quelque chose chez l'homme lui rappelait Vincent. Obinze haussa les épaules et ne dit rien. Inutile d'échanger des politesses sous prétexte qu'il partageait une cellule. « Avez-vous quelque chose à lire, s'il vous plaît ?» demanda Obinze à l'agent de l'immigration quand elle vint chercher l'homme de Djibouti qui avait une visite.
« Lire ?»
répéta-t-elle en haussant les sourcils. « Oui, un livre, un magazine ou un journal. »
« Vous voulez lire ?»
Sur son visage apparut une expression de dédain amusé. « Désolé, nous avons une salle de télévision où vous pouvez aller après le déjeuner. » Dans la salle de télévision, il y avait un groupe d'hommes, dont de nombreux Nigérians, parlant bruyamment. Les autres, écroulés sous le poids de leur désespoir, écoutaient les Nigérians échanger leurs histoires, rire ou se lamenter sur eux-mêmes.
C'est ma deuxième fois. La première fois, je viens avec passeport différent,
dit l'un d'eux.
C'est au travail qu'il m'attrape, oh. Il attrape un type qu'ils expulsent. Lui, il revient chercher les papiers. C'est lui qui va m'aider,
dit un autre. Obinze envia le naturel de ces hommes qui changeaient de nom et de passeport, projetaient de revenir et de tout recommencer parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Ils ne possédaient pas leur savoir-faire. Il était vulnérable, un garçon qui avait grandi en mangeant des cornflakes et en lisant des livres, élevé par une mère à une époque où dire la vérité n'était pas encore un luxe. Il avait honte de se trouver avec eux, mêlé à eux. Il n'éprouvait pas ce genre de honte, et même ça, il le leur enviait. En prison, il se sentit atteint à vif, écorché, dépouillé de toute protection. Il reconnaissait à peine la voix de sa mère au téléphone, la voix d'une femme qui parlait un anglais nigérian limpide, qui lui disait d'un ton calme de se montrer fort, qu'elle serait à Lagos pour l'accueillir. Et il se souvint que des années auparavant, lorsque le gouvernement du général Buhari avait cessé de distribuer des produits de première nécessité et qu'elle ne revenait plus à la maison avec des boîtes de lait gratuites, elle s'était mise à broyer des graines de soja pour faire du lait. Elle disait que le lait de soja était plus nourrissant que le lait de vache. Et bien qu'il refusât de boire ce liquide grumeleux le matin, il la regardait faire, plein de bon sens, sans une plainte. C'était ce qu'elle faisait à présent, au téléphone, lui promettant de venir le chercher, comme si elle avait toujours prévu cette éventualité, voir son fils en prison, attendant d'être expulsé d'un pays étranger. Il pensait beaucoup à Ifemelu, se demandant ce qu'elle devenait, si sa vie avait changé. Elle lui avait dit un jour à l'université « Tu sais ce que j'admirais le plus chez toi au lycée ? C'est que tu n'avais aucun problème à dire « je ne sais pas ». Les autres garçons prétendaient savoir ce qu'ils ne savaient pas. Mais tu gardais toujours cette confiance en toi et tu étais capable d'admettre que tu ignorais quelque chose. » Il avait trouvé le compliment inhabituel et apprécié cette image de lui-même, peut-être parce qu'il savait qu'elle n'était pas tout à fait exacte. Il se demandait ce qu'elle penserait si elle apprenait où il était à présent. Elle se montrerait compatissante ? Certainement. Mais dans quelle mesure ne serait-elle pas déçue ? Il hésita à demander à Iloba de la contacter. La retrouver ne poserait pas de difficultés. Il savait déjà qu'elle habitait Baltimore. Mais il ne le lui demanda pas. Quand Iloba venait lui rendre visite, il lui parlait d'avocat. L'un comme l'autre savait que c'était inutile. Et pourtant, Iloba parlait d'avocat. Il s'asseyait devant Obinze, de l'autre côté de la table, appuyait sa tête sur ses mains et parlait d'avocat. Obinze se demandait si certains d'entre eux existaient ailleurs que dans l'esprit d'Iloba. « Je connais un avocat à Londres, un Ghanéen. Il représentait un homme qui n'avait pas de papier. L'homme était presque à bord de l'avion et soudain, il a été libéré. Il travaille maintenant dans l'informatique. » À d'autres moments, Iloba se consolait en énonçant ce qui était évident. « Si seulement le mariage avait été célébré avant qu'ils arrivent, » disait-il. « Tu sais que s'ils étaient arrivés seulement une seconde après, ils ne t'auraient pas touché. » Obinze hochait la tête. Il le savait, et Iloba savait qu'il le savait. Durant la dernière visite d'Iloba, après qu'Obinze lui eût dit qu'il allait être transféré à Douvres le lendemain, Iloba se mit à pleurer. « Zed. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Iloba, qu'est-ce que tu racontes ? Arrête de pleurer, mon ami, dit Obinze, heureux de pouvoir jouer les braves. Pourtant, quand Nicolas et Odjugo vinrent le voir, il détesta leurs efforts pour se montrer positif, se comporter pratiquement comme s'il était malade et qu'il venait lui rendre visite à l'hôpital. Ils s'assirent en face de lui, à la table nue et froide, et parlèrent de choses et d'autres. Odjugo s'exprimant un peu trop vite, Nicolas en disant plus en une heure qu'Obinze l'avait jamais entendu dire en une semaine. Née avait été admise au National Children's Orchestra, Na avait encore gagné un prix. Ils lui apportèrent de l'argent, des romans, un sac de vêtements. Nicolas avait fait des achats à son intention et la plupart des vêtements étaient neufs et à sa taille. Odjugo demandait souvent « Mais est-ce qu'il te traite bien ?» comme si l'important était le traitement plutôt que la morne réalité, son emprisonnement dans un centre de rétention, sur le point d'être expulsé. Personne ne se comportait normalement. Ils étaient tous sous l'emprise de son infortune. Ils attendent d'avoir des sièges disponibles pour Lagos, dit Obinze. Ils vont me garder à Douvres jusqu'à ce qu'il y ait une place disponible. Obinze avait lu un article sur Douvres dans un journal, une ancienne prison. Franchir les portails électroniques, les hautes murailles, les barbelés, lui parut surréaliste. Sa cellule était plus petite, plus froide que celle de Manchester, et son co-détenu, un autre Nigérian, lui déclara qu'il n'allait pas se laisser expulser. Il avait un visage dur, décharné.
« J'enlèverai ma chemise et mes chaussures quand ils essaieront de me faire monter à bord. Je ferai une demande d'asile, » dit-il à Obinze. « Si tu enlèves ta chemise et tes chaussures, ils ne t'embarquent pas. »
Il répétait souvent cette phrase comme un mantra. De temps en temps, il pétait bruyamment, sans dire un mot, et de temps en temps, il tombait à genoux au milieu de leur petite cellule, les bras levés au ciel, et priait « Dieu Tout-Puissant, gloire à ton nom. Rien n'est trop pour toi. Je bénis ton nom. » Ses paumes étaient striées de marques profondes. Obinze se demandait quelles atrocités elles avaient subies. Il étouffait dans cette cellule, ne sortait que pour faire de l'exercice et pour manger de la nourriture qui ressemblait à un bol de verre bouilli. Il n'arrivait pas à l'avaler. Son corps était sans force, sa chair fondait. Quand on le fit monter dans un fourgon un matin, à l'aube, son menton était entièrement recouvert d'un épais duvet, semblable à un tapis d'herbe. Le jour n'était pas encore levé. Il était avec deux femmes et cinq hommes, tous menottés, tous expédiés au Nigeria, emmenés à l'aéroport de Heathrow, dirigés vers les guichets de l'immigration et de la police, avant d'être conduits à l'avion, sous le regard des autres passagers. On les fit asseoir en queue de l'avion, dans les dernières rangées de sièges, près des toilettes. Obinze resta immobile pendant toute la durée du vol. Il refusa son plateau repas. « Non, merci, » dit-il à l'hôtesse. La femme qui était à côté de lui dit « Je peux la voir ?» Elle avait séjourné à Douvres comme lui. Elle avait des lèvres très sombres et un air enjoué, tenace. Elle s'arrangerait, il en était sûr, pour avoir un autre passeport et tenter l'aventure à nouveau. Comme l'avion entamait sa descente vers Lagos, une hôtesse s'approcha et dit d'une voix forte « Vous ne pouvez pas descendre. Un fonctionnaire de l'immigration va venir vous prendre en charge. » Le visage crispé de dégoût, comme s'ils étaient tous des criminels bafouant les honnêtes Nigérians comme elle. L'avion se vida. Obinze regarda par le hublot un vieil avion arrêté sous le soleil tiède de la fin d'après-midi, jusqu'à ce qu'un homme en uniforme s'avance dans l'allée. Il avait un ventre imposant. Boutonner sa chemise devait tenir du combat.
« Oui, oui, c'est à moi de vous prendre en charge. Bienvenue au pays !»
dit-il ironiquement. Et il rappela à Obinze cette propension à rire des Nigérians, à s'amuser d'un rien. Cela lui avait manqué.
« Nous rions trop !» avait dit sa mère un jour. « Peut-être devrions-nous moins rire et résoudre davantage nos problèmes. »
L'homme en uniforme les conduisit à un bureau et leur remit un formulaire. Nom, âge, pays d'origine.
« Vous ont-ils bien traité ?» demanda-t-il à Obinze.
« Oui, » dit Obinze.
« Avez-vous quelque chose pour les gars ?»
Obinze le regarda un moment, son visage franc, sa vision simpliste du monde. Les expulsions étaient monnaie courante et les vivants continuaient à vivre. Obinze sortit de sa poche un billet de 10 livres, une partie de l'argent que Nicolas lui avait donné. L'homme s'en empara avec un sourire. Dehors, il eut l'impression de respirer de la vapeur. Il fut pris de vertige. Une tristesse nouvelle le submergea, la tristesse des jours qui l'attendaient, quand il aurait l'impression que le monde était légèrement détraqué, que sa vision était floue. À la sortie de la zone arrivée, un peu à l'écart des autres personnes qui attendaient, sa mère lui faisait signe.